Bonjour et bienvenue pour le numéro 1 du podcast Movies Nerd, enregistré le 30-08-2013. Que s'est-il passé ce mois-ci sur la planète cinéma? Vous allez le savoir maintenant, c'est parti.
Scene 1, Apple, take 1.
Bienvenue pour ce premier épisode du podcast Movies Nerd. Je me présente, je m'appelle Axel, j'ai 18 ans, je suis ce que l'on peut appeler un cinéphile et un geek, slash nerd en général. J'écris des critiques de cinéma depuis à peu près un an, et il n'y a pas longtemps j'ai décidé de créer le blog Movies Nerd, où depuis à peu près un mois je publie mes critiques. Je suis un fan de cinéma et de films en général, mais mes genres de prédilection sont la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Je suis un grand amateur de podcasts, de tout genre, français ou anglais, depuis maintenant 4 ans. J'avais vraiment envie de pouvoir en faire un moi-même, donc j'ai créé mon blog, et j'ai décidé de me lancer dedans. Je serai votre hôte dans ce podcast, mais je ne suis pas tout seul, car j'ai un invité, et pas des moindres, car il s'agit de ma sœur, Roxane.
Salut tout le monde!
Ok, donc, puisque les présentations sont faites, on va tout de suite passer au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, qui s'annonce assez chargée. Ainsi, nous allons commencer avec les news cinéma du mois d'août, ensuite on continuera avec la critique d'un classique du cinéma, puis la rubrique Looking of Movies, ensuite ce sera le film du mois, on continuera avec nos attentes pour les deux prochains mois, qui sera une rubrique que vous retrouverez tous les deux mois, puis ce sera l'heure de la bande-annonce du mois, et enfin la dernière rubrique, la Minute Nerd, et après ce sera déjà la fin, donc on commence tout de suite avec les news cinéma du mois. Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci? L'équipe Movies Nerd est là pour vous tenir informé des dernières news à venir, dans la rubrique News Cinéma du mois. Et voilà, c'était notre magnifique jingle, fait par mes soins. Voilà, donc nous allons parler des news du mois d'août, et on avait un mois très chargé, hein, puisque comme vous le savez, tous les blockbusters sortent pendant le mois de juillet-août, là où il y a le plus de sorties cinéma, c'est à cette période et à Noël, et donc là on a eu beaucoup d'informations pour l'année prochaine et pour ce Noël-ci. Donc on va commencer avec la première news. Chris Carter, le créateur de la série de science-fiction X-Files, dont personnellement je suis fan, croit toujours à un troisième volet de la saga sur grand écran. Il aimerait même que l'acteur Simon Pegg participe à l'aventure. Pour ma part, les deux premiers films X-Files étaient pas aussi réussis que la série. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire un troisième. Après, c'est à voir. Et Simon Pegg, toujours, s'est rendu dans les studios Marvel et a posté des photos de lui avec des personnages emblématiques. L'acteur a ainsi posé devant Hulk avec le marteau de Thor et devant Ant-Man, qu'il pointe du doigt sournoisement. Il faut dire que l'acteur est très ami avec Edgar Wright, le réalisateur d'Ant-Man, puisqu'ils ont tourné 3 films ensemble. Pegg faisait sûrement tout simplement un clin d'œil à Wright, donc voilà. Et on a eu une mise à jour, Simon Pegg et Edgar Wright ont répondu aux rumeurs en expliquant que l'acteur ne sera pas Ant-Man. Pegg a même plaisanté, je vais en revanche jouer Ant-Nan, un film sur les aventures d'une grand-mère minuscule. Puisqu'en anglais, Ant-Nan, enfin, Nan, ça veut dire grand-mère. Et Ant, c'est une fourmi. Donc, voilà, on aimerait bien voir Simon Pegg en Ant-Man, ce serait marrant. Franchement.
Ce serait pas mal, effectivement.
Ouais. On espère aussi voir prochainement une bonne annonce pour ce film qui a l'air pas mal. La deuxième news, c'est sur Man of Steel 2. Bryan Cranston, le génial Bryan Cranston, qui joue le personnage principal dans la série Breaking Bad, Walter White, et qui jouait le père de Malcolm pour les nostalgiques qui regardaient Malcolm, est évoqué avec insistance pour prêter ses traits à Lex Luthor, le méchant emblématique de la saga Superman. À en croire le site Comic Book News, Bryan Cranston aurait d'ores et déjà signé pour prêter ses traits et son crâne chauve à Lex Luthor dans 6 films. Et le studio attendrait la fin de Breaking Bad le 29 septembre pour officialiser la chose. Bryan Cranston en Lex Luthor, pour moi, ce serait vraiment génial, parce que j'adore cet acteur déjà. Et en plus, il a franchement un assez grand talent d'acteur pour pouvoir jouer à la perfection. Un super bon exécuteur. T'en penses quoi?
Je pense que c'est. Il peut faire quelque chose de bien là-dedans, dans ce rôle.
Ouais. Je pense qu'il sera assez emblématique. On passe à la troisième news, encore du super-héros, mais cette fois dans l'écurie adverse Marvel, avec leur prochain film, ils ont dévoilé plusieurs images et photos des Gardiens de la Galaxie. Et le tournage vient de débuter en Angleterre pour une sortie programmée le 13 août 2014 en France. Les premières photos ont filtré sur le site Super Hero Hype, qui s'est procuré ces clichés montrant des créatures géantes et des humains malmenés. Les maquillages que montrent ces photos ont l'air très fidèles aux comics originaux. On est impatient de voir la première bande-annonce pour enfin avoir une histoire de super-héros basée dans l'espace et qui n'est pas Green Lantern, parce que franchement...
Commence à en avoir
marre. Green Lantern, c'était vraiment de la merde. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Ensuite, toujours Marvel, parce que pour ce film, on a beaucoup de news, puisqu'il sort bientôt. C'est pour Thor 2, donc Thor, le monde des ténèbres en français. Ils ont dévoilé leur première affiche avec dessus les principaux protagonistes et antagonistes de Thor. Une composition épique entre photos et dessins qui n'est pas sans rappeler le style adopté par la saga Star Wars et plus récemment par la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et surtout... moi, ce qui m'a, ça m'a fait vraiment penser à l'affiche des deux tours, où il y a quasiment la même composition d'images avec des tours, des personnages vraiment dans le même cadrage. Voilà. Donc, vous pouvez voir cette affiche sur internet. Qu'est-ce que t'en penses, l'affiche? Elle a l'air pas mal.
C'est vrai qu'il y a une grande ensemble avec les deux tours, mais elle est vraiment jolie, je trouve.
Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve que ça a l'air pas mal. Ensuite, Thor 2, toujours, ils ont dévoilé leur première bande-annonce qui dure 2 minutes 30, mais on en parlera un peu plus en détail un peu plus tard dans l'émission. Et la dernière news, c'est une rumeur lancée par l'actrice Natalie Portman qui a laissé entendre à la convention Disney D23 qu'un troisième volet de la saga Thor verrait le jour. Interrogée sur l'intérêt porté par Anthony Hopkins pour reprendre une troisième fois son rôle d'Odin, celle qui incarne le personnage de Jane Foster a répondu « Comme je crois qu'ils sont en train de préparer un Thor 3 », Anthony sera ravi. Cette courte phrase n'a pas valeur de confirmation officielle, reste qu'elle a été prononcée et peut donc susciter un véritable optimisme chez tous les fans de Marvel et du héros incarné par Chris Hemsworth. Mmh. En tout cas, il n'a pas l'intention de lâcher son marteau de sitôt. C'est une blague faite par moi-même.
Ouais. J'en ai aussi une autre.
Vas-y.
Tordu, Tordu.
Oh mon dieu. Ouais, mon dieu, Thor. Voilà. C'est pas grave, on est bien parti là.
On va être déprogrammé très bientôt, ne vous inquiétez pas.
C'est tout pour les news sur Thor 2, et on passe à la cinquième news qui concerne les Oscars. C'est officiel, Hélène DeGeneres l'a confirmé sur Twitter. C'est elle qui présentera la cérémonie des Oscars en 2014. La présentatrice du talk show de Hélène DeGeneres Show et comédienne vient d'être choisie par l'Académie des Oscars pour assurer le show devant le tout Hollywood le 2 mars 2014. Elle succède donc à Seth MacFarlane, qui avait présenté le show l'année dernière et qui n'avait pas plu à tout le monde. Franchement, moi j'avais pensé qu'il avait fait un super show, et tous ceux qui n'avaient pas aimé, franchement, c'était des rabat-joie qui comprenaient rien à son humour. Ce mec, c'est un putain de génie, et ils l'ont tous défoncé sur Twitter, et toute la presse s'est acharnée sur lui.
C'était un showman, il savait chanter, danser... franchement, c'est vrai, il est très talentueux.
Et puis en plus, avec une apparition de Captain Kirk, on peut pas lui reprocher.
On peut pas faire plus geek.
Voilà. La sixième news concerne Avatar, qui James Cameron développe un peu plus l'univers de ses navis. Avatar n'aura ainsi pas deux suites, mais trois suites. Attendu sur les écrans à partir de 2016. Je ne sais pas ce que vous avez pensé d'Avatar, premier du nom, mais pour ma part, malgré l'enthousiasme de tout le monde, j'avais été déçu. Car je m'attendais vraiment à voir un chef-d'œuvre de science-fiction comme Cameron nous y avait habitué, au même titre que Terminator 1 et 2, Abyss ou encore Aliens. Mais ce film, malgré ses prouesses techniques, n'avait vraiment pas un bon scénario. J'ai trouvé qu'il s'agissait d'un bon film, mais certainement pas d'un chef-d'œuvre. Bref, j'espère qu'il va pouvoir un peu élargir son univers, tout en écrivant de bons scénarios pour ses trois prochains films. Les prochaines années vont être très riches en films de science-fiction, comme vous allez voir dans les prochaines news. Mais pour Avatar, j'ai trouvé que le premier avait un scénario très très simplet, avec des gentils, des méchants, et puis voilà. C'est pas ce qui a fait la carrière de James Cameron. Hein.
Il nous avait habitués à mieux.
Ouais. Ensuite, on parle de Star Trek 3. Les scénaristes Roberto Orci et Alex Kurtzman rempilent pour le troisième volet. L'information vient d'être confirmée. Damon Lindelof, en revanche, ne serait pas de retour parmi l'équipe des scénaristes. Son nom circule cependant pour coproduire Star Trek 3 aux côtés de J.J. Abrams. Mais on n'a toujours pas de confirmation sur le réalisateur, car Star Wars 7 et Star Trek 3 sortiraient à peu près au même moment. Et je ne pense pas que J.J. Abrams puisse enchaîner deux gros films de science-fiction comme cela en une si petite période de temps. Et qu'est-ce que t'en penses, Christian?
Ben ouais, ce serait marrant que ça sorte en même temps quand même, non?
Ouais, ce serait bizarre.
Il y aurait deux clans adverses comme il y avait à l'époque.
Ouais.
Trekkies face aux fans de Star Wars.
Bon, pour ma part, moi j'adore les deux.
Voilà, il n'y a pas de guerre.
Ensuite, on parle d'un film que j'attends particulièrement, c'est X-Men Days of the Future Past. C'est ce mois-ci que le tournage du prochain film de la deuxième franchise X-Men vient d'être finalisé, et grâce à son réalisateur Bryan Singer, le génial Bryan Singer qui nous avait fait X-Men 1 et 2 et pas 3, oubliez le 3, c'est de la merde, et à son Twitter, Bryan Singer nous a inondé d'images de tournage. De ce que l'on a vu pour l'instant, ce film s'annonce très bien. Maintenant, il ne leur reste plus que la post-production, qui va sûrement mettre un certain temps. Mais rappelons que le film est normalement prévu pour une sortie le 21 mai 2014 en France. On attend impatiemment la première bande-annonce. Ensuite, une news sur Interstellar, le nouveau projet de Christopher Nolan, le génie Christopher Nolan. Enfin, dernièrement, avec son Man of Steel, il m'a pas mal déçu.
Ouais.
Paramount Pictures l'a officiellement annoncé, Christopher Nolan vient de lancer le tournage d'Interstellar, probablement le film de SF le plus attendu de l'année 2014, et l'un des plus attendus toujours confondu. Les prises de vue ont commencé ce mois-ci à Alberta au Canada, et devraient se poursuivre sur une multitude de plateaux à travers le monde. Le scénario est signé par l'incontournable Jonathan Nolan qui est son frère, on sait juste qu'il racontera l'odyssée interstellaire d'un groupe d'explorateurs désireux, de repousser les limites humaines. Le casting est confirmé et ne présente aucun changement. Depuis que David Oyelowo a annoncé qu'il rejoignait une distribution emmenée par Matthew McConaughey, Anne Hathaway et Jessica Chastain. Le compte à rebours est donc lancé, s'achèvera le 5 novembre 2014 pour les Français, date de sortie confirmée et le 7 novembre pour les Américains. Je sais pas ce que vous avez pensé d'Inception, mais moi j'avais trouvé que c'était un excellent film, bien meilleur que Avatar, qui avait vraiment des bonnes idées philosophiques et en même temps qui avait le sens du grand spectacle, comme nous y habituait Christopher Nolan avec ses Memento, etc. Il a fait aussi, bien sûr, la trilogie Dark Knight. Voilà, donc on attend vraiment que Christopher Nolan nous refasse une petite perle comme Inception, qui était vraiment super. Ensuite, sur une note un peu plus humoristique, on reparle de Seth MacFarlane, qui vient de révéler sur son compte Twitter la date de sortie de Ted 2, c'est en avril 2015, que l'ours sera de retour en salle. Qu'est-ce que t'as pensé de Ted 1, puisque maintenant tu vas pouvoir, parce que tu parles pas trop, alors tu vas un peu parler. Mais...
Ben, Ted 1, il était vraiment génial, et bien sûr c'est de l'humour à la Family Guy, de Seth MacFarlane. C'était vraiment bon, si vous n'aimez pas la vulgarité, regardez pas ce film. Mais franchement il était génial, moi j'ai vraiment aimé. Il y avait Mark Wahlberg et Mila Kunis, ils étaient vraiment très beaux là-dedans, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le 2.
Ouais, moi aussi j'avais adoré, j'ai failli mourir étouffé en regardant ce film la première fois, de rire, parce que, enfin tellement je rigolais que j'en pouvais plus. Voilà, donc moi de toute façon je suis un fan de MacFarlane devant l'éternel, alors tout ce qu'il fait pour moi c'est excellent. Dans l'ensemble c'est un génie. Ensuite, 11e news déjà, ouh. Ça va, on avance. On parle d'une série qu'on n'a pas entendue depuis très longtemps, la quatrième dimension de Twilight Zone en original. Et c'est l'acteur américain Leonardo DiCaprio qui relance l'idée d'une nouvelle adaptation pour le grand écran de la quatrième dimension, dont la réalisation serait confiée à Joseph Kosinski, cheville ouvrière d'une autre résurrection, celle de Tron. Bon, il a fait Tron, ouais.
Voilà.
Tron l'héritage, vraiment, voilà. Comme beaucoup de monde l'a dit, si ce film était juste muet avec les effets visuels et la musique de Daft Punk, ça suffirait à faire un grand clip de Daft Punk et ça suffirait au film, il n'aurait pas besoin de scénario. La star américaine a décidé de relancer avec le soutien de poids de Warner un projet qui lui tient à cœur depuis plus de 6 ans. Une nouvelle version cinéma de la quatrième dimension, un long métrage dont il entend confier la mise en scène à Joseph Kosinski, qui a aussi fait Oblivion, bon je l'ai pas vu, je parlerai pas dessus, qui avait débarqué dans le monde du cinéma avec Trône d'Héritage, j'en ai déjà parlé, voilà. Résurrection du Trône de 82, cette fois le cinéaste aurait la lourde tâche de ramener à la vie la série légendaire créée par Rod Serling, qui enchanta le public américain entre 1959 et 1964. Les premières traces du projet de DiCaprio remontent à 2007, depuis le désistement de Matt Reeves, appelé sur Dawn of the Planet of the Apes. Le film était orphelin de réalisateur. Alors, le premier film qu'ils avaient fait, dont il y avait une partie qui était réalisée par Spielberg, c'était très mauvais, et en plus, il y a un mec qui est mort pendant le tournage, alors...
C'est un peu maudit, là.
Ouais. Et puis, un film, quatrième dimension.
C'était mieux les petits épisodes, ça suffisait, je trouve.
Les épisodes suffisent à eux-mêmes, c'est déjà un chef-d'œuvre de science-fiction à lui-même, il n'y a pas besoin de le gâcher encore plus. On attend toujours de voir ce que ça peut donner, hein, mais c'est assez mal parti. Ensuite, une news sur Indiana Jones 5. Dernière nouvelle concernant le film Indiana Jones 5 remontait à un an et demi quand George Lucas avait déclaré qu'il était perplexe sur la création de l'histoire. Malgré ça, Harrison Ford a fait part de son intérêt pour jouer dans le film, et ce, de même si la production de la suite n'a pas encore été confirmée depuis que Disney a racheté les droits à Lucasfilm. Harrison Ford a confié qu'il est disposé à reprendre son rôle. L'acteur explique « Nous avons vu le personnage se développer et grandir pendant longtemps, et c'est le bon moment pour lui de revenir et d'avoir un grand film sur lui où il n'a pas nécessairement besoin de beauté des fesses. Pour moi, ce qui rend ce personnage intéressant, c'est qu'il a du courage, de l'esprit et de l'intelligence. Il a parfois peur, mais il a toujours réussi à survivre malgré ça. Et ça, je sais faire. » Maintenant, il reste à savoir si Disney projette de ramener Indiana Jones pour une aventure de plus ou non. Même si c'est le cas, on ignore si Harrison Ford, actuellement âgé de 71 ans, quand même, jouera encore le rôle principal. Franchement, pour ma part, revoir une dernière fois Harrison Ford avec son fouet et son chapeau, et ce n'est pas un film porno, dans un film qui n'est pas Indiana Jones 4 non plus, hein, j'ai vraiment envie de revoir ce que ça peut donner.
Franchement, ouais, mais bon, faut pas qu'il essaie de grimper à la corde parce qu'il va se faire mal. Fais hein. Gaffe, papy.
Il pourra pas avec sa cataracte. Bon, Harrison Ford, c'est quand même une légende, alors.
Ouais, on reste.
Respect. News Marvel, pour continuer. Marvel a pour l'habitude de planifier ses films plusieurs années à l'avance. Actuellement, le studio parle déjà de deux films qui sortiront en 2016 et 2017, dont les titres ne sont pas encore connus. Trois autres films ont aussi été évoqués, mais n'ont pas encore été annoncés officiellement. Le président de Marvel, Kevin Feige, a confirmé la tendance du studio à tout prévoir à l'avance. En expliquant au micro de Wired, je pourrais sans doute dire ce que nous prévoyons pour l'année 2021, mais est-ce que ça se fera, je ne sais pas. Mais ce que nous avons planifié en 2006, pour 2015, est en train de se concrétiser. Avengers, Age of Ultron et Ant-Man, dont on a parlé un peu avant, font partie des projets de Marvel pour 2015. Kevin Feige a également fait allusion à une extension de l'univers cinématographique de Marvel avec d'autres films à venir. Parmi les titres au cœur des rumeurs, il y aurait un film sur Doctor Strange et un autre sur Black Panther. On est impatient de voir ce que ça va donner. Et maintenant, c'est le moment de la grosse news du mois qui a fait pas mal de bruit sur Internet. C'est Ben Affleck en Batman. Après de longues semaines et des dizaines de rumeurs, Warner Bros. A désigné le nouveau Batman qui affrontera Superman dans Man of Steel 2. Ce sera l'acteur et réalisateur Ben Affleck. Pour ma part, je trouve que Ben Affleck est un bon acteur et un bon réalisateur, comme il a prouvé sur Argo. Il a bien sûr fait quelques erreurs, mais je le trouve bon acteur en général. Voilà ce que j'en pense. Plus tard, le site spécialisé Hollywood Reporter a annoncé que le contrat signé sur l'acteur avec la Warner porterait non pas sur un seul et unique film, mais sur une série de plusieurs longs métrages. Pas franchement une surprise, mais au moins une confirmation que la présence de Ben Affleck dans le costume de l'homme chauve-souris s'inscrit dans le temps. A noter que le nombre précis de films n'a pas encore été précisé. Justice League, que la Warner voulait un temps voir réalisé par Affleck, pourrait être un de ceux-là. Alors qu'une folle rumeur distillée par le site Comic Book News annonce un deal portant sur 13 apparitions. Franchement, j'ai vraiment du mal à croire qu'il est signé pour 13 films, ce serait...
Du suicide.
Voilà. Faire un personnage pendant 13 films, c'est...
Gaver le public, un petit peu, on va dire.
Voilà. En plus, avec les réactions qu'il y a eu sur Internet, le public, je pense pas qu'il voudrait le voir dans 13 films. À moins qu'il change d'avis, mais... Ensuite, plus tard, on a eu des réactions sur Twitter, bien sûr, et dont des personnalités assez connues. Les réactions semblaient majoritairement négatives concernant le choix de Ben Affleck. Le milieu professionnel se montre plus souriant. Henry Cavill, qui donnera la réplique à Affleck dans Man of Steel 2, a ainsi déclaré au micro de la BBC Radio être très excité de travailler avec un si grand acteur. Et même Joss Whedon, réalisateur d'Avenger, est là sur Twitter pour soutenir l'acteur à l'orée de ce qui s'annonce comme un tournant majeur dans sa carrière. Si même Joss Whedon, qui travaille pour la concurrence, donc Marvel, soutient Ben Affleck, je vois pas pourquoi il devrait faire toute une tollée pour si peu. On apprenait plus tard que Batman et Ben Affleck, c'est une histoire qui durait depuis longtemps, car l'acteur et le rôle se tournaient autour depuis exactement 13 ans. Tout commence commence en 2000 lorsque le comédien prend soin de démentir une rumeur le liant au personnage. Cette histoire est absurde, avait-il déclaré sur son site internet. Il n'y a aucun scénario sur Batman, ni même de film prévu, ils n'ont appelé ni mon agent ni moi-même. Je ne sais pas d'où sortent ces trucs, c'est à croire que des gens s'assoient dans une pièce et les inventent. Voilà. Puis après quelques films dont Argo, pour lequel il reçoit l'Oscar du meilleur film 2013, la Warner avait enfin, après deux autres essais quelques années auparavant, réussi à faire dire oui à Affleck pour le rôle de Batman alias Bruce Wayne. Toute cette vague de d'anti-Affleck a fait naître une pétition, et on apprenait le dimanche 25 août qu'une pétition anti-Affleck avait déjà récolté plus de 55 000 signatures, et au moment où je vous parle, elle a déjà atteint les 88 000 signatures. Donc c'est quand même pas mal de monde qui déteste Ben Affleck. Hein. Pour ma part, rien de très alarmant pour la Warner qui va sûrement rester sur son choix, mais c'est quand même impressionnant le nombre de gens qui ne peuvent pas supporter Ben Affleck, alors qu'ils étaient tous en train de lui lécher les bottes pour Argo. J'aurais compris le but de cette pétition s'il s'agissait de quelqu'un comme Justin Bieber ou Zac Efron, mais là il s'agit d'un acteur professionnel qui a prouvé qu'il était capable de grandes choses, et qu'il faut attendre les premières images ou bandes annonces pour tout de suite juger cet acteur. Alors moi, mon avis personnel, c'est comme à l'époque où Heath Ledger était pressenti pour le rôle du Joker dans The Dark Knight, tout le monde avait fait son commentaire négatif concernant cet acteur, mais après quand ils ont vu la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight, eh ben ils se sont fermés leur gueule. Donc je dis qu'il faut attendre les premières images, etc. Il faut pas tout de suite juger. Moi je trouve cet acteur plutôt bon, hein. Je veux pas dire que c'est le meilleur acteur du monde, hein, mais loin de là, mais je le trouve quand même pas mal. Et Rossane, toi t'en penses quoi?
Alors moi, je trouve que c'est con de faire d'être anti-Affleck, faire des pétitions. Christian Bale, il a joué aussi pour trois films, mais je crois pas qu'il ait eu autant de réactions négatives. Alors franchement, il faut lui laisser sa chance.
Ouais. Lui laisser sa chance, laissez-lui sa chance. Nom de Zeus. On part pour les news Star Wars du mois, et en plus j'ai fait une référence à Retour vers le futur alors que c'est pour Star Wars. C'est parti. Donc les news Star Wars du mois, puisque il y en a toujours, et comme je suis un grand fan de Star Wars, et là, je vais toutes vous les faire, hein, à peu près toutes, et comme je voulais pas mettre ça dans les news, parce que sinon il y aurait eu trop de Star Wars et pas assez d'autres films, et ben j'ai décidé de faire une rubrique les news Star Wars du mois. I am a Jedi, like my father before me. Donc la première news, selon le site Latino Review, le tournage de Star Wars épisode 7 commencera le 21 janvier 2014 et la pré-production aurait déjà démarré. Le réalisateur J.J. Abrams compte déménager à Londres en fin d'année pour préparer le tournage. Le site explique également que la production a pris un peu de retard, c'est pour cela que la date de sortie a été repoussée à Noël 2015, au lieu de l'été. Aucune de ces informations n'ont été confirmées pour le moment, mais si le tournage démarre bien début 2014, nous pourrions avoir des nouvelles sur le casting très prochainement. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Deuxième news, le réalisateur enrôle de nouveau Daniel Mindel, directeur photo de ces deux Star Trek. C'était une évidence que cette annonce ne fait que souligner. Le style visuel et l'éthique du monsieur devraient être au rendez-vous. Le film sera par ailleurs tourné selon l'habitude d'Abraham sur pellicule et non pas sur disque dur comme cela a tendance à se démocratiser. Moi j'avais adoré son boulot de direction sur Star Trek. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont pleins de cette technique qui consiste à mettre des flashs dans la gueule de la caméra pour que ça fasse des effets, mais moi je trouvais ça pas mal, assez inédit, puis ça donnait un petit effet, on savait quel film on regardait. 900 years old, you reach. Look as good, you are not. Troisième news, titulaire de pas moins de 49 nominations aux Oscars, auteur de quelques-unes des plus fameuses mélodies du 7ème art, et en particulier les divers et cultissimes thèmes musicaux de la saga Star Wars, John Williams sera bien à nouveau à la baguette pour Star Wars épisode 7. Âgé de 81 ans, le compositeur faisait part en février dernier de son désir de poursuivre l'aventure avec les nouveaux films mis en chantier. La confirmation est venue de Kathleen Kennedy à la convention de Star Wars qui s'est tenue ce week-end à Essen en Allemagne. J'ai l'impression de ne jamais avoir quitté cette galaxie lointaine, très lointaine, déclare Williams dans une interview ou vidéo, où il évoque sa future collaboration sur l'épisode 7. Je n'ai pas encore lu le script, mais je ne peux pas imaginer qu'il ne fasse pas de référence à l'histoire existante. Comme spectateur slash fan, j'attends impatiemment de découvrir quelles seront les surprises révélées dans ce nouvel opus. Sage décision de la part de la production de s'attacher à nouveau le service du maître, tant Williams est totalement indissociable de l'univers de Star Wars. Et pour moi, un Star Wars sans une musique de John Williams, ça aurait pas vraiment été un Star Wars. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Quatrième news, Ewan McGregor, qui jouait Obi-Wan dans la trilogie, voilà, n'a jamais caché qu'il serait parfaitement disposé à reprendre le rôle d'Obi-Wan Kenobi si cela lui était proposé. Or, Latino Review, encore eux, croit avoir appris que le personnage pourrait effectivement faire son retour sous forme spectrale dans le Star Wars que va prochainement tourner J.J. Abrams. Sous les traits de l'acteur écossais qui serait du coup un peu jeune mais pourrait toujours être vieilli pour remplacer le défunt Alec Guinness dans la peau du fantôme de Obi-Wan. Plus important pour l'heure, mais pas impossible au vu des vastes projets de Disney pour la franchise, le tournage d'un éventuel spin-off centré sur le personnage a été évoqué par Ewan McGregor qui s'est verrait dessiner. On pense qu'on a un spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Ouais, le personnage est pas mal.
Je sais pas si on peut creuser pour faire un film entier dessus.
Ouais, on verra bien. I am defenseless. Take your weapon. Strike me down with all of your hatred, and your journey towards the dark side will be complete. Cinquième news, et dernière de ces news Star Wars, une nouvelle étrange vient d'être publiée sur Jedi News, un site de fans Star Wars, qui rapporte que l'acteur Ian McDiarmid va reprendre son rôle dans Star Wars. McDiarmid a dépeint le sénateur chancelier empereur Palpatine dans 4 films de la franchise, à savoir les épisodes 1, 2, 3 et 6. Étant donné que son personnage est décédé dans le retour du Jedi, son retour dans le nouveau film Star Wars serait surprenant. La source du site affirme que les spécificités du rôle ne sont pas claires, mais il semble probable que McDiarmid reprendra le rôle de Palpatine. On ne sait pas encore si ce sera le personnage original de Palpatine ou un clone. Dans le livre, en rapport avec les films, le personnage est ressuscité dans le corps de l'un des nombreux clones qu'il a créé de son vivant. Et voilà, c'est la fin des news, on va passer à la prochaine rubrique, c'est la critique d'un classique. Et c'est parti pour Jingle.
Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? Ne vous inquiétez pas, l'équipe Movisner a la solution. Car c'est l'heure de la critique d'un classique. Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10. C'est une garantie Movisner avec la critique d'un classique.
Et voilà, on arrive à la rubrique de la critique d'un classique. Donc le principe, c'est qu'on parle d'un film qui n'est pas sorti au cinéma, bien sûr, mais qui est sorti les années précédentes. Ce sera une critique inédite, ce sera pas posté sur le site, donc c'est juste audio, mais vous pouvez toujours apprécier. Donc on va parler ce mois-ci du film Shaun of the Dead, qu'on a vu il y a à peu près une semaine, et on va parler du casting déjà. Le casting est composé de Simon Pegg, Kate Ashfield, de Nick Frost, de Lucy Davis. Le scénario est de Edgar Wright et de Simon Pegg, et la réalisation est faite par Edgar Wright. Le film est sorti en 2004. Simon Pegg et Edgar Wright et Nick Frost avaient travaillé sur une série entre 1999 et 2001, Space, et ça c'était leur premier film, inspiré d'un des épisodes de la série. Lucy Davis, donc qui joue la meilleure amie de la copine de Simon Pegg, a joué dans la série The Office, et Penelope Wilton avait joué dans Doctor Who, dont nous sommes tous les deux absolument fans, voilà, on peut le dire, hein. On est allé en Angleterre spécialement pour aller dans un magasin Doctor Who,
le Hoosh,
que je vous conseille si vous êtes fan de Doctor Who. Le synopsis du film, je vais vous lire un synopsis que j'ai trouvé sur internet parce que je me suis pas fait chier à faire un synopsis, donc c'est parti. À presque 30 ans, Sean, donc Simon Pegg, ne fait pas grand chose de sa vie entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub. Liz, qui est jouée par Kate Ashfield, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle, qui voudrait que Sean s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu plus à leur couple, Liz décide de rompre. Sean est décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable. Bon, le synopsis c'est un peu bidon, hein, mais bon.
C'est un synopsis.
Voilà. Donc pour moi, considère déjà, avant de parler techniquement du film, Shaun of the Dead, c'est ce genre de film. Moi, je le classerais dans la même catégorie que qu'un Retour vers le futur ou qu'un Star Wars. Bon, la trilogie originale. C'est ce genre de film qu'on peut voir une trentaine de fois et on s'en passe pas. On trouve toujours de nouvelles choses, on rit toujours aux blagues. Il y a quelque chose dans ce film qui je sais pas quoi, c'est...
C'est pas lassant.
Voilà, c'est vraiment... c'est la preuve d'une bonne écriture, d'un bon scénario, d'une bonne réalisation, jeu d'acteur, etc. Et on va parler un peu plus là, dans les prochaines minutes. Roxane, qu'est-ce que tu as pensé brièvement du film?
Franchement, très très bon film. Très bon film de zombies, franchement. Avec toujours les deux mêmes acteurs, Simon Pegg et Nick Frost. Et ils font toujours un duo génial. Et il était vraiment sympa.
Donc on va parler un peu plus du film. Déjà on va commencer par la réalisation. Alors la réalisation est faite par Edgar Wright. Ce mec c'est un génie de la caméra, ça il faut que j'ose le dire. Hein. Il faudrait vraiment qu'il puisse faire plus de films. C'est un jeune Spielberg. Il arrive toujours à trouver des angles de caméra excellents, inédits, fun. Il a vraiment quelque chose d'unique. Ensuite, les effets spéciaux pour un film de 2004 déjà, et avec pas beaucoup de budget, sont vraiment vraiment super bien. Et franchement on se demande pourquoi en France on n'arrive pas à faire ce genre de film de zombies alors que l'Angleterre est juste outre-Manche, on a quasiment la même culture et pourtant on n'arrive vraiment pas à faire de bons films de genre en général, de science-fiction, de fantasy, de fantastique, je mets tout ça dans le même panier. Pour moi il y a aucun film pour l'instant qui est ressorti du lot. Et donc pour reparler des effets spéciaux de ce film, surtout à un moment où on va pas trop spoiler, mais un zombie se fait empaler et il se relève et on voit un trou dans son ventre qui est franchement, moi à chaque fois que je vois ça m'impressionne toujours de voir surtout le budget du film qui était vraiment pas très élevé, surtout pour l'époque. Ensuite, on va parler du jeu des acteurs. Donc comme Roxane l'avait dit, les acteurs sont vraiment excellents. De toute façon, je suis fan du trio Simon Pegg, Nick Frost, Edgar Wright Nick Frost et Simon Pegg font toujours un duo excellent devant la caméra. Ils jouent des amis d'enfance qui sont colocataires. Ils partagent cet appart avec Pete qui est le salary man de base, c'est-à-dire celui qui ramène le fric à la maison. Enfin, un travail. On le voit pas dans ce travail, mais on suppose qu'il travaille dans des bureaux. Et sinon, tout le reste des acteurs, pour moi, ils sont très bons. Il n'y a aucune fausse note. Tous jouent à la perfection. Il y a peut-être Penelope Hilton qui joue la mère de Sean qui...
Un peu bébête, quoi.
Voilà, elle est un peu bébête.
Naïve.
Donc voilà. Mais sinon, ça va. C'est plutôt pas mal. On parle du... Maintenant, on va parler du gros du film, l'histoire. Alors, l'histoire, comme j'ai dit dans le synopsis, c'est une histoire de... Enfin, qui est pas très bien expliquée dans le synopsis. C'est une histoire surtout de zombies. Comme le dit l'affiche française, c'est la première comédie romantique de zombies. J'ai pas trouvé ça super accrocheur, mais bon.
Ça résume assez bien.
Voilà, ça résume assez bien. Les zombies sont super bien amenés. Ça, j'adore comment on est amené dans le monde. Au début, Sean voit toutes ces personnes paraître normales. Par exemple, il fait un chemin assez tracé et la caméra le suit et on voit plein de personnes vacant à leurs occupations et le jour suivant on le voit faire ce même chemin et on voit les différentes personnes pas attaquées mais on voit qu'il s'est passé quelque chose sur ce chemin mais Sean
ne remarque
pas puisqu'il est complètement pété de la veille, il veut juste aller s'acheter des glaces chez l'épicier. Donc plus tard avec son pote il découvre qu'il y a des zombies qui sont apparus. D'ailleurs, le début du film montre des humains qui paraissent normaux mais qui font déjà zombies un peu. Donc c'est une critique de la société comme quoi on est déjà des zombies à faire les mêmes mouvements encore et encore dans des boulots comme caissière, etc. Dans le film, ils les font passer déjà pour des zombies avant que ce soit actuellement des zombies. Ensuite, Sean, qui s'est fait larguer par Liz, décide d'aller récupérer sa mère et sa copine et de l'emmener dans le bar où plus de la moitié du film va se passer, hein, le Winchester. C'est un pub anglais dont le personnage passe la plupart de son temps, donc il y aura toutes sortes de péripéties, etc. Je vais pas vous spoiler. L'histoire, franchement, est excellente, écrite par Edgar Wright et Simon Pegg, comme je l'ai dit avant. On s'ennuie pas un seul moment, toujours quelque chose à voir. Franchement, c'est du pur génie. L'histoire, c'est une petite pépite. Le dernier point, c'est la musique. Donc la musique plutôt appréciable dans ce film, puisqu'il y a un groupe dont personnellement je suis fan, Queen, il y a deux chansons d'eux. Et en plus c'est très bien amené dans l'histoire. Enfin, si vous n'avez pas vu le film, vous verrez. Si vous avez déjà vu le film, vous savez de quoi je parle. C'est bon, à part Queen, on n'a pas trop noté de... Bon, ici il y a une bonne bande originale, mais connaissant pas les groupes, tous les groupes, pas tous vous les citer. Et donc, on arrive sur notre avis final sur le film. Donc, personnellement, comme je l'ai dit avant, je trouve ce film, enfin, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, qu'il y a rien à redire sur ce film. Il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Et donc, si vous l'avez pas vu encore,
Le DVD.
Voilà, achetez le DVD. On vous conseille vraiment de le regarder parce que, franchement, si vous aimez les zombies, c'est à voir. Si vous aimez le trio Edgar Wright, Simon Pegg, Nick Frost, c'est un film absolument à voir. Et donc, ce dernier point conclut notre critique d'un classique. Et on va passer à la prochaine rubrique, Looking of Movies. Qu'est-ce que cette bande de geeks a encore regardé ce mois-ci? Vous allez tout savoir dans la rubrique Looking of Movies. Donc c'est la rubrique Looking of Movies. Je vous l'ai expliqué dans le jingle, c'est qu'est-ce qu'on a regardé ce mois-ci et qu'on n'a pas critiqué. Déjà je vais faire qu'est-ce que j'ai vu personnellement moi tout seul. Ensuite on va parler des films qu'on a vus nous deux ensemble. Et Roxane nous parlera d'un film qu'elle a vu toute seule. Donc je vais parler d'abord d'un film dont j'ai fait la critique sur le site Movies Nerd, God Bless America. Vous pouvez lire mon excitation sur ce film dans les critiques de classiques du blog Movies Nerd. Je ne vais pas en dire plus, c'est juste excellent. Il y a tout. Enfin voilà, si vous détestez la télé-réalité, il faut absolument voir ce film, c'est génial. Ensuite, j'ai vu Man on the Moon. Je l'ai enfin vu, ça faisait longtemps que je voulais le voir. J'étais très Jim Carrey ce mois-ci, je sais pas pourquoi, j'avais envie de voir des films de lui. Donc j'ai vu deux films que j'avais pas vu de lui et un film que j'ai déjà vu. Donc Man on the Moon, c'est le premier que j'ai vu, qui parle d'un comique très méconnu en France, Andy Kaufman. Un comique qui surprenait toujours le public. Il faisait par exemple, il faisait semblant de ne pas être drôle, et puis d'un coup, il étonnait le public, et c'est cet étonnement qu'il cherchait, qui faisait rire autant le public. Il voulait vraiment pas un rire commandé, un rire qui vient de l'estomac. Ça, c'est un vrai artiste. Donc, ce film qui a été fait en 99, c'est une biographie de Andy Kaufman, avec dans le rôle principal Jim Carrey. Il joue très bien son rôle, on voit plusieurs passages de sa vie, et quand j'ai vu ce film, j'avais du mal à croire que c'était un biopic, parce qu'il y avait tellement des choses qui étaient surréalistes, pour moi, ne pouvaient pas se passer à la télé. Et ben Andy Kaufman l'a fait, et vous pouvez le voir sur YouTube, vous tapez juste Andy Kaufman, et vous pouvez voir tout ce qu'il a fait, c'est assez exceptionnel. Je vous conseille vraiment, déjà, de voir le film, et après, de vous intéresser au personnage, comme je l'ai fait moi-même. Voilà. Réal très bonne, actorat excellent, un super film. Histoire excellente aussi, bon c'est une histoire vraie donc. Voilà. Ensuite, j'ai vu The Truman Show, enfin je voulais le voir aussi depuis très longtemps. Truman Show, c'est l'histoire de Truman, qui est interprété par Jim Carrey. C'est la star d'une télé-réalité, on est encore avec cette histoire de télé-réalité. C'est la star d'une télé-réalité, et il est entouré de personnes, il vit dans une ville, il croit que c'est la réalité. Mais en fait, c'est le seul à ne pas savoir qu'il est dans une télé-réalité. Et tous les gens autour de lui, ils sont des acteurs, portent des caméras, il y a des caméras partout pour le suivre, partout. Tout est prévu pour que ses moindres gestes. Et puis un jour, il va découvrir que tout se passe pas normalement, qu'il y a un truc qui va pas. Donc franchement, super surprise, très étonné, super bon film. Autant que Man of the Moon, avec un sujet différent. Mais Jim Carrey, moi j'aime bien cet acteur, bon, après... Il a fait peut-être quelques performances qui n'étaient pas terribles, mais franchement, très très bon film, à voir absolument, critique de la société, acteur excellent, autre que Jim Carrey aussi excellent, histoire super intéressante, captivante jusqu'au bout, et puis voilà, regardez ce film, c'est super bien. Ensuite, un film que j'avais déjà vu en étant gosse, que j'adorais en étant gosse, et que j'ai ri à deux blagues dans le film, voilà, en étant adulte, c'était Menteur Menteur, donc un film qui a encore pour star Jim Carrey, qui est un menteur professionnel, puisque c'est un avocat qui ment pour faire gagner ses clients, qui sont pas toujours innocents. Donc voilà, franchement c'est une comédie sympa à voir une fois, mais c'est pas un grand film. À côté de Truman Show ou de Man on the Moon, préférez Man on the Moon ou The Truman Show à Menteur Menteur, qui est pas terrible. Bon, il y a des blagues sympas, il fait très bien son rôle de comique, etc. Un film surtout à voir quand vous êtes gosse. Ensuite, dans un registre un peu plus sombre, j'ai enfin pu voir La Mouche. Un classique que je n'avais toujours pas vu, classique de la science-fiction, avec Jeff Goldblum, un acteur que je sais que pas beaucoup de monde apprécie, mais moi ça va, je trouve encore sympa. Le premier, un des premiers films de David Cronenberg, c'est l'histoire d'un scientifique joué par Jeff Goldblum qui a inventé une machine qui transporte la matière, donc un téléporteur. Il faisait ses expériences sur des singes et à chaque fois ça foirait, ça donnait des trucs dégueulasses, envie de gerber. Et un jour, eh ben, il trouve la formule et il le teste sur lui-même. Et malheureusement, il y a une mouche qui rentre en même temps avec lui dans le téléporteur. C'est à partir de là qu'il va subir des transformations physiques assez impressionnantes pour l'époque, je dois dire. Les maquillages sont vraiment bien faits. L'histoire est très intéressante, je vais pas en dévoiler plus, mais super intéressante à suivre jusqu'au bout. On apprend à détester ce scientifique qu'on adorait au début. Bien sûr, il y a une histoire d'amour un peu nunuche maintenant, mais très bonne encore pour l'époque. C'est un très bon film à voir si vous êtes fan de science-fiction, c'est absolument à voir, c'est un classique. Ensuite, le dernier film que j'ai vu tout seul, qui est sorti au cinéma ce mois-ci, c'était Elysium, dont vous pouvez retrouver la critique sur Movie Nerd, bien sûr. Alors, je vais pas vous refaire tout le speech, j'ai adoré ce film, malgré ce que les critiques cinéma peuvent en penser. Moi, j'ai trouvé excellent, très bien fait, très bien réalisé, avec des super effets spéciaux, une super histoire, quelques petits trous dans le scénario, mais c'était très bon, c'était très bien. Maintenant, on va parler des films qu'on a vus ensemble. Donc, je vais laisser un peu plus la parole à Roxane aussi. Parce que je fais beaucoup de monologues en ce moment. Donc, le premier film qu'on a vu ensemble, c'est Wayne's World. Donc, vous pourrez retrouver aussi la critique sur Movie Nerd. Pur classique, de la comédie, à la base un sketch dans une émission américaine, Saturday Night Live. Bon, je vais pas en parler plus de l'histoire, parce que vous pouvez lire la critique, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Rose?
Moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Les deux acteurs principaux sont vraiment hilarants. Et la musique, bien sûr, Queen, n'hésitez qu'elle. Est vraiment génial, il y a du rock pendant tout le film, c'est vraiment très sympa. Le fait que Wayne parle à la caméra, ce qui est assez novateur pour l'époque, et l'humour vraiment potache, très sympa, un peu lourd. Mais...
Je n'ai qu'un mot à dire, chouing.
Voilà, si vous avez vu le film, vous comprendrez, c'est... voilà.
Ouais, donc ensuite, on a enfin vu Monstre Academy, donc vous pouvez retrouver la critique sur Movie Nerd, bien sûr.
On ne fait pas du tout des publicités.
Non, mais on n'a pas chômé ce mois-ci. Enfin, on l'a enfin vu. Et bien sûr, comme vous avez pu me lire, j'ai été très emballé par ce film. Je l'ai trouvé excellent, aussi bien que le 1, dont je suis fan. Et Roxane, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, franchement, j'ai vraiment aimé. Ça m'a vraiment fait penser aux Monstres et compagnie quand j'étais petite. J'ai un peu retrouvé mon enfance. C'était... vraiment, vraiment cool.
Monstre Academy, pour moi, surtout au niveau réalisation et animation, c'était vraiment une claque dans la gueule. Vous avez pu lire sous la critique. Franchement, c'est assez excellent. Ensuite, on va pas en parler plus puisque vous pouvez lire la critique. Hot Fuzz. On a un autre film par Edgar Wright et Simon Pegg, bizarrement. On l'a vu, on l'a revu pour notre part. Très bon film, hein, comme d'hab. Cette fois, c'est pas une parodie des films de zombies, c'est une parodie des films d'action. Donc là, c'est Simon Pegg qui joue un policier de Londres hyper pro, hyper carré, qui arrive dans un bourgade paumé d'Angleterre, en fin fond de l'Angleterre, et il arrive dans un village. À première vue, il se passe pas grand chose, mais on pourra découvrir que le village a quand même ses secrets, pour pas en dévoiler plus. Nick Frost joue aussi un policier dans le petit village, et donc ils vont reformer leur duo. Au début ils s'aiment pas, ensuite c'est des potes, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Ben toujours le même humour, hein, le même humour anglais quand même. Franchement, l'histoire vous tient en suspense jusqu'à la fin, et je vais pas spoiler, mais la scène de fin est vraiment épique.
Ouais, et là c'est pas moi de le dire, parce que l'action est intense, de presque 20 minutes d'action de fin. Moi aussi, je pense la même chose, hein, j'adore cet humour, j'adore ces acteurs, j'adore ce réalisateur, donc je vais pas en dire plus, hein, mais j'adore ce film, quasiment aussi bon que Shaun of the Dead, pour ma part, un dessin en dessous, quand même, que Shaun of the Dead. Ensuite, on a fait un marathon ce mois-ci, Kevin Smith, j'ai introduit ma sœur à ce réalisateur de génie. On a vu pas mal de ses films, donc on a commencé avec Clerks, un super film de supérette.
Tout à fait, c'est ça. Filmé en noir et blanc, il
faut dire. En noir et blanc, en 94, un super film indépendant. Enfin, si vous n'êtes pas des cinéphiles avertis, vous ne connaissez sûrement pas ce film. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, avec vraiment un humour spécial, décalé, des conversations vraiment intéressantes. Comme Kevin Smith le dit, il fait rien de mieux que filmer deux gars en train de parler Star Wars, mais c'est agréable à voir, c'est vraiment une petite pépite. Tu en as pensé quoi, toi?
Il faut savoir que c'est pas vraiment un film d'action, c'est plutôt un film à dialogue. Franchement, bon humour. Il y a toujours le même duo.
Jay et Silent Bob, dont on parlera un peu plus plus tard. Il apparaît dans le film, mais c'est pas le duo principal. Donc on va parler tout de suite du suivant. Mallrats, les glandeurs en français. Les rats de supermarché en traduction littérale. Mallrats, qui est pour ma part le premier film de Kevin Smith que j'ai vu et le premier film qui m'a fait aimer ce réalisateur. L'histoire, c'est de... Ben, c'est deux amoureux de comics, science-fiction, etc., des geeks, qui traînent dans un supermarché, c'est la base. Après, il y a plein de choses qui se passent, pas en dévoiler plus, mais franchement, c'est super intéressant, il y a un super humour, le duo Jay et Silent Bob sont bien sûr de la partie. Donc ensuite, on a vu Chasing Amy avec Ben Affleck, on le retrouve ici, et... Jason Lee qu'on a vu aussi dans Mallrats et dans la série My Name Is Earl dans le rôle principal, qui là joue là des dessinateurs de comics indépendants. L'histoire principale, c'est que le personnage de Ben Affleck tombe amoureux d'une fille et que peu après il se rend compte qu'elle est lesbienne. Il va tout essayer pour la faire changer d'avis sur sa sexualité, etc. Donc ça donne des scènes assez marrantes. Le comics dont il dessine et écrit parle du OJ et Silent Bob, dont on les voit apparaître à la fin. Et Silent Bob parle pendant 5 minutes, alors que normalement son personnage est censé être muet. Je vais pas en dire plus, très bon, un bon petit film, appréciable. Roxane, deux petits mots.
Franchement, bon film, en plus ça parle des sujets d'actualité quand même.
Ouais, des sujets encore d'actualité donc. Ensuite, Jay and Silent Bob Strike Back. Là, c'est un film qui se concentre sur le duo de Jay et Silent Bob. Donc faire un film où la moitié du duo ne parle pas, c'est quand même un sacré...
Un petit record.
Ouais. Un petit record, ouais. Donc là, on les suit dans leur délire à travers l'Amérique pour... aller défoncer la gueule des gens qui se foutent de leur gueule sur internet et principalement pour éviter de faire un film sur leur vie à Hollywood. Donc il y a plein de scènes sur les plateaux, des scènes super super marrantes. Enfin voilà, je vais prendre des voilés trop non plus. Le duo est toujours aussi excellent. Jay et Silent Bob qui sont joués par pour la part Jay, c'est Jason Mewes, et Silent Bob, c'est Kevin Smith, donc qui joue dans ses propres films, qui joue le rôle de Silent Bob muet. Ils sont embarqués par une bande de nanas dans un van. Enfin, il y a toute une histoire assez intéressante à suivre, très marrante, très bons acteurs, une série de guests en plus finir, puisqu'on est à Hollywood, donc on trouve pas mal de gens connus. Bah voilà, on va passer au dernier film qu'on a vu de Kevin Smith ce mois-ci, c'est Zack et Miri font un porno. Donc avec ce titre, hein, on sait à quoi s'attendre. Donc c'est l'histoire de Zack et Miri qui n'ont plus assez d'argent pour payer leur loyer. Ils décident payer leur facture d'eau, électricité, loyer, et bien de faire un porno. Donc ils engagent des gens, ils trouvent un endroit pour filmer, il s'avère que c'est pas le meilleur endroit pour filmer, je vous laisse la surprise. Et donc voilà, c'est basiquement l'histoire. Bons acteurs, Seth Rogen, toujours aussi excellent, Elizabeth Shaw aussi, très bonne actrice. Un film un peu moins dans l'univers de Kevin Smith, mais toujours aussi appréciable. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
J'ai bien aimé ce film, c'est vrai. Mais bon, on retrouve pas le duo Jay and Silent Bob dans ce film, donc c'est vrai qu'il est un petit peu déconnecté de l'univers de Kevin Smith. Mais quand même, un film à voir, quand même.
Ouais. Donc maintenant, on va passer au film que Roxane a vu ce mois-ci, toute seule, comme une grande dans la salle de cinéma. C'est le film Insaisissable qui est sorti ce mois-ci. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors franchement, je fais d'abord le synopsis. Alors c'est l'histoire de quatre magiciens. Donc dans le cast, on a Jesse Eisenberg qui a joué dans Social Network et bien dans Zombieland. Il y a Isla Fisher qui a joué dans Confessions d'un accro au shopping. Il y a Woody Harrelson qui a également joué dans Bienvenue à Zombieland et Dave Franco qui a joué dans Superbad. Alors, l'histoire, c'est quatre magiciens qui se font contacter par un mystérieux inconnu, et pour qu'ils se rencontrent, ces quatre personnages, ils lui donnent une carte et une adresse, donc ils se retrouvent tous, et un an plus tard, ils montent un spectacle ensemble, et ils s'appellent les quatre cavaliers. Ils décident de, pour leur tour, de braquer une banque à distance. Eux sont à Los Angeles et la banque est à Paris. Et on retrouve dans le casting étonnamment Mélanie Laurent qui joue une agent d'Interpol, et elle est en compagnie de Mark Ruffalo qui joue un agent du FBI, et il décide de les traquer.
Mark Ruffalo qui jouait bien sûr Hulk dans Avenger, et basiquement qu'est-ce que dans la pensée vraiment du film?
Franchement, j'ai trouvé que c'était un très très bon film malgré ce que disent les critiques. On peut aussi retrouver Morgan Freeman dans ce film, qui pour sa part démonte les tours des magiciens pour en faire une émission télé.
Donc voilà, franchement ça a l'air intéressant, je suis impatient de le voir en DVD. On va passer à la prochaine rubrique qui est le film du mois. C'est parti, jingle. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci, ou lequel faut-il éviter? Vous n'achèterez plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Donc on arrive à la rubrique du film du mois, la grosse partie du podcast. Ce mois-ci, c'est un film par le trio dont on a parlé dans Shaun of the Dead, Simon Pegg, Nick Frost et Edgar Wright à la réalisation. Donc le film dont nous allons parler, c'est The World's End, le dernier pub avant la fin du monde en français, parce que on doit changer les titres, parce que sinon les Français ne comprennent pas l'anglais.
Merci la VF.
Ouais, voilà, merci les traducteurs de Universal, surtout à Universal qui sort pas le film dans beaucoup de salles en France. Hein. J'ai vu pas mal de commentaires sur internet critiquer ça. Heureusement, nous on a eu la chance de pouvoir le voir le jour de la sortie, où il y avait 4 personnes dans la salle. Merci.
C'était fort dommage quand même.
Merci la promotion Universal. Hein. L'année de production, ça a été fait en 2013. Le casting est composé de Simon Pegg qui joue Gary King, le personnage principal, Nick Frost, Andy Knight, Paddy Considine, Steven, Martin Freeman, Oliver et Eddie Marsan, Peter. Le synopsis que j'ai trouvé sur internet, parce que je me suis pas fait chier à faire un synopsis, même s'il est pourri. 20 ans après avoir essuyé tous les bars, 5 amis d'enfance se réunissent lorsque l'un d'entre eux se met en tête de reprendre le marathon de la boisson. Ils sont convaincus de replonger par leur ami Gary King, 40 ans, qui les entraîne dans leur ville natale pour se rendre jusqu'au légendaire bar The World's End. Alors qu'ils tentent de réconcilier passé et présent, ils prennent conscience que c'est pour le futur qu'ils vont devoir lutter, et pas seulement le leur, mais aussi celui de l'humanité. Atteindre The World's End sera alors le dernier de leurs soucis. Donc, Martin Freeman, juste pour rappeler, c'est Bilbo dans la trilogie de Bilbo des Hobbits, dont on attend impatiemment le prochain film, au passage. Ensuite, on va parler du film en lui-même. Donc on va commencer par la réalisation. Edgar Wright, comme j'en ai dit du très bien dans Shaun of the Dead, je vais encore en dire du très bien dans The World's End. C'est un excellent réalisateur, il a toujours des techniques qui sont très appréciables à l'œil. Visuellement, c'est très joli, les effets spéciaux sont magnifiques. Franchement, entre mélange d'effets créés par ordinateur et d'effets physiques, c'était quand même vraiment bien fait pour un film avec un budget correct. Donc oui, Edgar Wright, toujours au top, même plus au top encore. On se demande où est-ce qu'il va s'arrêter. Ensuite, le jeu des acteurs. Donc, ben là, je vais pas trop en dire non plus. Hein. Simon Pegg, excellent. Nick Frost, excellent. Et pour une fois, le duo Simon Pegg et Nick Frost, eh ben, d'habitude, c'est tous leurs films et leur ancienne série, c'est toujours des potes. Et cette fois, ils prennent le pied inverse. Enfin, c'est des potes, mais ils se détestent, en fait. Jusqu'à ce qu'en fait, après, ils s'aiment bien. Voilà. C'est pas un gros spoiler, mais. Ensuite, Martin Freeman, Paddy Considine, Eddie Marsan, les personnages secondaires, enfin, cinq amis, mais c'est quand même Simon Pegg et Nick Frost qui sont aux commandes. Bah, ils jouent très très bien. Martin Freeman, j'ai rien à dire sur lui parce que je le vénère parce que c'est Bilbo. Après, les deux autres, je les connaissais pas trop, mais ils se sortent pas mal. Après, les personnages un peu plus extérieurs. Sont aussi très bons, y a rien à dire sur. C'est vraiment un très bon casting. Donc, ensuite, l'histoire, ben moi je l'ai apprécié, vraiment, j'ai vraiment apprécié, j'ai rigolé. J'ai énormément rigolé dans la salle, j'étais un peu le seul, hein, on peut dire.
Ouais,
Hein.
j'avoue, le public était pas très réceptif, j'avais l'impression.
On était vraiment deux à rigoler, enfin, on est des habitués du duo, enfin du trio, on connaît toutes les petites références, donc on rigole bien quand on voit un acteur qu'on a vu dans un de leurs anciens travails et que maintenant on le revoit dans ce film. L'histoire en elle-même est super bien écrite. En fait, Edgar Wright et Simon Pegg avec ce film, ils voulaient faire. On a l'habitude maintenant du schéma classique avec Simon Pegg et Nick Frost qui sont ensemble des copains et qui vont survivre jusqu'à la fin, enfin des fois pas survivre mais qui vont s'entraider jusqu'à la fin et qui sont potes. Et ben cette fois avec ce film ils prennent le pied complètement inverse. Comme je l'ai dit avant, ils sont maintenant ennemis, enfin quasiment ennemis. Nick Frost déteste Simon Pegg. Donc en résumé, l'histoire était super excellente. Voilà. Ensuite la musique, ben j'ai il y avait pas trop de thèmes reconnaissables comme dans Shaun of the Dead ou Hot Fuzz. J'étais un peu mitigé sur cette partie, mais bon, c'est pas la plus importante du film. Par contre, le sound design, enfin, les effets sonores sont plutôt bien rendus. C'était très bien. Ensuite, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les points techniques. Maintenant, je vais donner mon avis final sur le film. Franchement, c'est le film qui est censé clore la trilogie entamée par Shaun of the Dead avec Hot Fuzz et maintenant The World's End. Et franchement, j'ai trouvé qu'il faisait très très bien son boulot. C'est une petite pépite de comédie à absolument aller voir, même si la bande-annonce vous paraît un peu débile ou. Parce que moi, si j'avais vu la bande-annonce sans savoir qui jouait dedans ou qui réalisait, franchement, ça m'aurait pas donné envie. Mais quand je suis allé le voir, j'étais vraiment pas déçu. J'ai passé un super bon moment, on a bien rigolé, enfin voilà. Et surtout la fin qui est complètement épique, je vais pas en dire plus, mais où on a l'impression qu'ils ont pas eu le temps de faire toutes les parodies, enfin, parce que les trois films sont des parodies, Shaun of the Dead parodie de films de zombies, Hot Fuzz parodie de films d'action, et donc celui-là parodie de films de science-fiction et de catastrophe, de films catastrophe. Et ben, à la fin, on se rend compte qu'ils voulaient faire beaucoup de parodies, enfin, et qu'ils ont mis tout à la fin, et c'est un mélange de genre qui est assez exceptionnel, assez enfin super bon. On a vraiment envie de voir ces petites parties devenir des vrais films parce que ça a donné vraiment envie, mais je vais pas en dévoiler plus, vous allez voir en regardant le film. Donc quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment pas déçu, j'étais complètement dans le film, j'avais vraiment pas envie que ça se finisse, voilà. Donc maintenant on va passer la parole à Roxane qui n'a pas beaucoup parlé pendant cette critique. Puisque c'était principalement ma critique, mais on l'a vu ensemble. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé vraiment du film?
Ben, j'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à Very Bad Trip. Alors, je me suis dit, non, Venom de leur part, c'est pas possible. Mais finalement, quand j'ai vu le film, j'ai pas été du tout déçue, ben, comme Axel. J'ai trouvé ça comme Shaun of the Dead et Hot Fuzz vraiment génial. Dans la même lignée, avec bien sûr une attaque d'OVNI vraiment épique. Et Simon Pegg, il joue vraiment très bien son rôle.
D'ado attardé.
Voilà, d'ado attardé, pendant que tous ses potes, ils ont une vie bien rangée, une femme, des enfants. Et il essaye de leur faire... Simon Pegg essaye de faire changer ses potes d'avis.
De les rendre de nouveau comme ils étaient avant.
Mais il se rend compte que voilà, les choses ont changé et qu'on peut pas revenir en arrière. Et voilà, il comprend beaucoup de choses sur ses amis. Et il comprend qu'il est plus le même qu'il y a 30 ans.
Voilà, donc pour finir cette critique, vite fait, on va faire notre top. Quel est le meilleur film de la Cornetto? Ils appellent ça la Cornetto trilogie. Donc pour moi, la moitié du film de World's End, pour moi c'était toujours Shaun of the Dead qui était devant. Après, quand ça a commencé à passer dans l'histoire de science-fiction, j'ai été vraiment très très partagé. Je pouvais pas choisir. Mais si je devais absolument choisir un seul film, ce sera Shaun of the Dead en premier. Ensuite, The World's End. Et ensuite Hot Fuzz, parce que je trouve que Hot Fuzz est un peu en dessous, mais vraiment toujours aussi excellent, toujours c'est des chefs-d'œuvre du cinéma qu'il faut absolument voir si vous êtes fan de cinéma, si vous êtes fan de comédie, vous allez vraiment apprécier ça. Et Roxane, ton top 3 de la trilogie?
Franchement, j'ai du mal à faire un top 3 parce que c'est vraiment des genres différents, ils sont tous dans un genre différent, c'est pas possible d'en comparer un avec l'autre, parce que à part les acteurs, qui sont c'est les mêmes acteurs. Mais moi, je ferais le même classement que toi, je pense.
Ouais, d'accord. Donc, ceci dit, on va passer à la prochaine rubrique, nos attentes. Vous savez qu'ici, à Movies Nerd, on aime le cinéma. Saviez-vous que l'on aime aussi attendre les films qui seront projetés dans les prochains mois? Mais quel film attendons-nous le plus? Vous êtes sur le point de le découvrir dans la rubrique, nos attentes. Et on est à la rubrique Nos Attentes. Donc cette rubrique sera faite une fois tous les deux mois parce que il n'y aura pas assez de films dont on a envie de parler. Donc ce sera une rubrique une fois tous les deux mois. Donc Nos Attentes pour le mois de septembre. Le premier qui sort très prochainement, le 4 septembre 2013, c'est Your Next, un slasher qui a l'air très intéressant. Avec un slasher, un truc de base quoi, c'est si vous voulez un film, un exemple, c'est Freddy ou Halloween, un tueur, une cible principale. Dans ce film, ce sera une famille, la cible principale, enfin, ce qui semble être la cible. Donc, vraiment sympa, bon, peut-être pas aller voir au cinéma. À attendre au DVD. Ensuite, qui sort le 11 septembre 2013, le Majordome, qui a l'air très intéressant aussi. L'histoire, vite fait, c'est l'histoire d'un majordome qui a servi 30 ans à la Maison Blanche, donc il a vu passer pas mal de présidents des États-Unis. Et donc, l'histoire, c'est un peu autobiographique, mais bon, quand on dit autobiographique, c'est adapté, quoi. Donc, impatient de voir ça, je pense qu'on ira le voir au cinéma, on verra ça. Ensuite, le mois de septembre est pas trop chargé, enfin, pour ma part, après, il y en a qui attendent d'autres films, moi, j'attends que ça. Attendre pour le mois d'octobre, ça c'est un peu plus rempli quand même. En premier, le 2 octobre, il y a la suite de Machete Kills qui sort. Donc Machete, le premier, c'était un projet de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Et donc, Machete, au début, c'était une bande-annonce dans ses films, une fausse bande-annonce, et puis c'est devenu un vrai film, avec Danny Trejo, dans le rôle de Machete, donc un tueur à gages, etc. Donc, je vais pas trop en dévoiler. Et donc, Machete Kills, c'est la suite que je suis assez impatient de voir, qui a l'air pas mal. Un bon petit direct ou DVD, mais peut-être pas au cinéma, on verra ça. Ensuite, le même jour, le 2 octobre, il y a le biopic de Diana. Donc, quand j'ai entendu qu'ils allaient faire un biopic sur la princesse Diana, j'étais pas trop emballé. Bon, l'histoire, voilà, on la connaît tous. Mais j'ai vu la bande-annonce, et puis, petit à petit, ça m'a plu, ça m'a l'air intéressant. Peut-être pas au cinéma, biopic, c'est toujours pas très, très intéressant de voir ça au cinéma. quand on n'a pas énormément d'argent, il faut choisir ses films, donc voilà. Donc celui-là, on attendra sûrement en DVD. Ensuite, la semaine après, le 9 octobre, sort Prisoner, un film que j'attends impatiemment quand même. Pas autant que le prochain, mais quand même. Un film avec Hugh Jackman. L'histoire, c'est la fille de Hugh Jackman, elle s'est fait kidnapper, et puis la police elle fait pas bien son boulot, donc il va le faire lui-même. Voilà, histoire basique. La réalisation a l'air intéressante. Quand j'ai vu la bande annonce, ça m'a bien plu, les cadres. Hugh Jackman, hein, c'est Hugh Jackman, ça va, il est bon acteur, bon, pas super excellent, mais il se débrouille. Ensuite, le prochain film, c'est Gravity, qui sort le 23 octobre. Alors celui-là, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais assez étonné. Je suis vraiment très impatient de voir ce que ça va donner, parce que la bande-annonce en dévoile pas trop. C'est juste deux astronautes, donc un joué par George Clooney, qui sont dans l'orbite de la Terre. Puis quelque chose se passe mal, il y a leur navette qui explose, on a l'impression qu'elle explose, et puis il y en a le deuxième astronaute qui n'est pas George Clooney va partir à la dérive sans qu'on puisse l'arrêter dans l'espace. Donc comme vous savez certainement, dans l'espace quelque chose qui bouge ne s'arrête pas, puisqu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement d'air, donc quelque chose qui est parti sur sa lancée ne s'arrête jamais. Donc oui, ça a l'air très intéressant, les effets spéciaux super bien. Un film du réalisateur dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas super important, mais qui n'est, enfin, il n'est pas connu, mais je suis impatient de voir ce film, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le 30 octobre, Snowpiercer, un film de science-fiction encore. Cette fois, l'histoire, c'est la planète qui a été entièrement congelée, et avant qu'elle soit devenue comme ça, parce que ça a été à cause des humains, bien sûr. Eh ben, y a eu quelques élus qui ont eu le droit d'aller dans un train, le Snowpiercer, donc le personnage, comme ils l'appellent en français. Et donc, dans la bande-annonce, on n'en voit pas trop, mais ça a l'air vraiment assez intéressant, avec les pauvres qui sont au fond du wagon, au fond des wagons, et les riches qui sont devant, et les pauvres qui vont aller attaquer les riches pour je sais pas quoi encore, parce qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. C'est coupé assez net, c'est 50 secondes, hein, donc c'est pas énormément, mais ça a l'air plutôt intéressant. Ensuite, on va comme on parle de Snowpiercer, j'ai hésité entre ces deux bandes annonces, entre ces deux choses pour la rubrique suivante, mais c'est vraiment celle qui a attiré le plus mon attention ce mois-ci. C'est Thor, le monde des ténèbres, qui sort le même jour, et on va en parler un peu plus dans la prochaine rubrique.
You stuck up, half-witted, scruffy-looking nerf herder!
You shit-kicking, stinky horse manure-smelling motherfucker, you!
You're a fucking secretary. Fuck you! Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass.
Dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Misner, qui détient le secret des anciens Mayas grecs, est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçues au cinéma, car c'est la rubrique de la bande-annonce du mois.
Donc la rubrique de la bande-annonce du mois, et ce mois-ci on a décerné ce prix à la bande-annonce de Thor, le monde des ténèbres, donc Thor 2, qui a l'air vraiment excellent. On peut la retrouver sur YouTube, sur Allociné, sur etc. Donc mes impressions sur la bande-annonce, franchement, on a l'air d'avoir un film vraiment assez épique, qui promet des scènes vraiment spectaculaires, une histoire assez intéressante. J'ai toujours pas vu le Thor 1, donc il faudrait peut-être qu'on le voit.
Peut-être une bonne idée avant de parler de...
Ouais, donc je vais m'empresser d'aller acheter le DVD. Ça a l'air d'être vraiment un mélange assez assez intéressant entre science-fiction, fantasy, super-héros, même peut-être le mélange ultime, hein, on verra ça quand on verra le film, et peut-être qu'on fera sûrement la critique. Mais franchement, j'attends énormément ce film depuis que j'ai vu cette bande-annonce. Et toi, Roxane?
Enfin, franchement, très accrocheur comme bande-annonce. Les décors sont vraiment magnifiques. Vraiment
majestueux,
vraiment sublime. Je vais pas dire digne d'un Seigneur des Anneaux, mais presque. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
After all this time, Now you come to visit me, brother.
Why?
To mock.
I need your help. But I wish I could trust you.
If you did, you'd be the fool I always took you for.
Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness, and it hasn't survived.
What's gonna happen?
I gave you my word. I would return for you.
Face an enemy known only to a few,
known only to one.
You must be truly desperate to come to me for help.
If we do nothing, they will destroy us.
You even think about betraying him?
I'll kill you. That was from New York.
I like her.
Thor, your bravery will not ease your pain. Your family, your world will be extinguished.
We're running out of time.
The very fabric of reality will be torn apart.
I'll find a way to save us all.
Et donc maintenant on va passer à la minute nerd.
Ici à Movie Nerd, nous sommes tous des cinéphiles, mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds, et de ce fait nous aimons tout ce qui a trait à cette culture, ce qui a mené à la création de la minute nerd, où pendant 5 à 10 minutes nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo et toutes choses qui se rapportent à la culture geek. C'est parti pour la minute nerd.
Et on arrive déjà à la dernière rubrique, la Minute Nerd. Donc, comme je vous l'ai très bien expliqué dans le jingle, ça parle pas de cinéma, ça parle de BD, musique, jeux vidéo, séries télé. Alors pour commencer, je vais vous parler d'une série qui a un rapport avec les films dont on a parlé dans les deux critiques. Il s'agit de la série Spaced, qui a été diffusée pour la première fois au Royaume-Uni de 1999 à 2001 sur la chaîne Channel 4. Elle fut écrite par Simon Pegg et Jessica Stevenson, qui par la même occasion joue les rôles principaux dans la série. On y retrouve un casting tout à fait exceptionnel et rempli de très grands acteurs anglais, quasiment méconnus. On y retrouve également Nick Frost, qui joue ici le meilleur ami de Tim, Simon Pegg, et à la réalisation on retrouve bien sûr encore et une fois Edgar Wright. Cette série a permis au trio inséparable de se connaître, car il s'agit de leur premier travail tous ensemble. Et quel travail! Cette série, malheureusement méconnue du grand public, a pour histoire celle de ces deux paumés d'environ 20 ans, qui se rencontrent par hasard dans un café, et commencent à discuter et devenir amis au fil du temps. L'un est dessinateur de comics et qui travaille dans un comic book shop pour remplir ses fins de mois, et l'autre est une auteure qui ne se décide jamais à écrire. Ils se retrouvent à la rue et décident de se faire passer pour un couple pour pouvoir trouver un logement, et ils vont donc réussir à louer un appartement dans une maison où vit la propriétaire avec sa fille au-dessus d'eux, et Brian, un peintre qui ne trouve l'inspiration que dans la rage, l'agression et le désespoir en dessous de leur appartement. Donc pour moi, c'est une série tout à fait exceptionnelle. On trouverait jamais ça en France, malheureusement. Enfin, bon, bref, a quand même réussi à faire quelque chose, mais pas du niveau de Spaced, malheureusement, qui n'arrête pas de référencer tout ce qu'on aime dans la culture geek, Star Wars, etc., les jeux vidéo, les séries télé, les comics, etc. J'ai trouvé très bonne pour un premier boulot, franchement c'est exceptionnel. Ça m'a fait rire aux éclats plusieurs fois, et je vous conseille vraiment, si vous êtes fan de ce trio, de regarder cette série parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Donc moi c'est fini pour ma minute nerd, et maintenant c'est Roxane qui va parler de sa minute nerd.
Alors ma minute nerd, c'est la série Scrubs, série qui est pas tellement connu en France, comme Space. Ah, alors, l'histoire, c'est... on suit les aventures de John Dorian J.D. dans l'hôpital Le Sacré-Cœur, où il est interne. Il est avec son meilleur ami Turk, et qui est aussi son colocataire. On peut les suivre dans des histoires toutes plus loufoques les unes que les autres. Dr. Cox, qui est le mentor imaginaire de J.D., qui joue vraiment un rôle génial, totalement ironique. Il se fout tout le temps de la gueule de J.D., c'est vraiment un duo génial. Franchement, super drôle, un humour complètement absurde, complètement potache. Franchement, c'est... Je retrouve pas ce genre d'humour dans d'autres séries.
Voilà, c'était tout pour nos Minutes Nerd. Et maintenant, on arrive malheureusement à la fin. Et on arrive déjà malheureusement à la fin de ce premier podcast enregistré le 30 août 2013. J'étais votre hôte à travers ce podcast, Axel. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à @thelexal, ainsi que sur le blog Movies Nerd pour des critiques de films qui ne seront pas faites dans le podcast. N'oubliez pas de suivre l'actualité du blog sur Twitter à @movies-8nerd, aussi de vous abonner sur iTunes, de partager cette émission si vous l'avez appréciée. Je m'excuse par avance s'il y a eu quelques problèmes techniques ou de montage, c'est mon premier podcast. Je suis aussi au courant que le micro n'est pas de super bonne qualité et j'espère pouvoir bientôt remédier à ce problème. Je remercie aussi ma première invitée, Roxane, pour avoir eu la gentillesse de participer à ce podcast.
Merci à toi aussi.
Je lance aussi un appel si vous aimez l'émission et le cinéma et que vous voulez participer en tant qu'invité. Ou alors encore mieux, mais il faudra consacrer plus de temps, devenir co-hôte de l'émission, à mes côtés. Et pouvoir faire des critiques sur le blog Movies Nerd. Eh bien, si cela vous tente, vous pouvez me contacter à l'adresse email moviesnerd@gmail.com et j'évaluerai votre proposition. C'est ainsi que je vous dis à la prochaine. J'espère que l'émission vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour l'épisode 2 du podcast Movies Nerd. Ce fut un plaisir de faire cette émission. Salut!
Salut tout le monde!
Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a rien de mieux qu'une salle obscure pour profiter d'un film. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to fool him around when you're sailing, you're a gun, boy. When you're sailing, you're a gun. He's the top of the West, always cooler. He's